C'est Vincent le questionneur. Suite à des difficultés personnelles, je n'ai pas pu faire les entretiens prévus avec 3 candidats. Dans un souci d'équilibre, nous nous sommes rapprochés d'une radio amie, Radio Pays de Guéret. Elle nous offre la possibilité d'entendre les échanges que ces candidats ont accordés à leurs reporters. Et c'est ainsi que la fragilité d'un homme peut être secourue par la bienveillance d'un homme. Merci pour l'accueil que vous pourriez consentir à ces explications. Cette émission pourrait éveiller votre troisième oreille à vous, les écoutantes et les écoutants de ce jour. Je vous demande de ne pas vous interdire de commenter tous les discours des invités, toute la plastique de l'émission et tous les propos du questionneur. Ne quittez jamais l'attention critique et candide de votre libre arbitre. Dans la série Les entretiens du questionneur, la campagne législative 2017 en creuse. Bienvenue dans notre émission politique printanière, en promenade dans la campagne. L'autre chemin qui se propose de respirer les fragrances humaines de notre futur député creusois à l'Assemblée nationale.
Cécile Pinault.
Alors j'ai 47 ans, je suis installée en Creuse depuis le 2000. Avant j'habitais dans des grandes villes, je suis actuellement en recherche d'emploi. Et avant, j'ai travaillé dans diverses entreprises en tant que secrétaire. Et dernièrement, j'étais commerçante. Je me suis lancée auto-entrepreneur. Et je travaillais à la fois sur les marchés et au sein d'une boutique associative, le Panier du Coin, à La Souterraine.
D'accord. C'est la première fois que vous vous présentez votre candidature à des élections ?
Alors, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était aux législatives 2012. J'étais suppléante de Félix Crespo. Et là, Jean-Marc Governatori m'a redemandé si j'acceptais de me présenter pour l'Alliance. J'ai dit oui, sachant que je ferais les choses à mon niveau. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout une femme politique, comme on l'entend. Je suis une simple citoyenne et je fais les choses de façon simple.
Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé dans ces circonstances à dire oui et à présenter votre candidature pour ces législatives ?
Alors, c'est une conviction, une philosophie de vie. Me présenter, ça peut permettre de faire connaître une autre façon de voir la société et présenter l'Alliance. L'Alliance écologiste indépendante qui n'est pas connue ici en Creuse. Et finalement, je pense que se présenter à une élection, c'est plus percutant. C'est plus percutant. Enfin, je vois pas d'autre mot.
C'est un moyen de communiquer sur l'existence du mouvement, c'est ça ?
C'est un excellent moyen de communiquer, pas seulement sur le mouvement, pas seulement sur le parti, mais le projet de société qu'il représente. Et puis communiquer aussi le fait qu'il va falloir faire autrement, qu'on n'a pas le choix, que la planète, on la voit droit dans le mur.
On reviendra sur les sujets de l'environnement et des programmes. Juste, vous nous avez dit que vous n'étiez pas une experte de la politique politicienne. Or, depuis les présidentielles, on a l'impression que justement les partis politiques traditionnels, on pense au PS ou aux Républicains, pour citer que cela, sont un peu en perte de vitesse, qu'il y a des changements idéologiques, des glissements, des alliances, des nouveaux acteurs sur l'échiquier politique. À titre personnel, vous qui n'êtes pas justement une professionnelle de la politique, qu'est-ce que ça vous inspire ces changements, en fait, auxquels on assiste ?
Alors, je me suis dit, j'y ai réfléchi, et je me suis dit que, finalement, c'est pas vraiment un changement, c'est qu'ils officialisent le fait qu'il n'y a qu'une seule pensée, une pensée unique. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne sont pas pareils, qu'ils ne font pas pareil, Mais en fait, dans les actes, en gros, c'est pareil. Ils ne s'occupent pas vraiment de la population. Ils sont un peu largués de ce qui se passe vraiment pour la population au quotidien. Et ils s'occupent d'eux, en fait. Ils ont fait des grandes écoles. Ils viennent du milieu politique, du milieu financier, du milieu banquier. J'ai l'impression pas tous évidemment, mais la plupart qui sont au gouvernement ou à l'Assemblée nationale, ils se rendent pas compte de ce qui se passe et ils s'occupent que d'eux.
Emmanuel Macron qui dit on va prendre des ministres qui sont issus de la société civile, qui sont entre guillemets vierges en politique, ça vous y croyez pas? Pour vous c'est un effet d'annonce en fait, c'est pas...
J'ai pas vu tout le monde, tous ceux qui se présentaient en tous les cas aux législatives. Parmi les nouveaux ministres, il y en a qui sont dans le milieu depuis longtemps. Après, oui, il y a des nouvelles personnes. Peut-être que c'est pas forcément un effet d'annonce, hein, c'est peut-être une volonté de présenter des nouvelles personnes, finalement, de renouveler les gens, parce que il y a quand même beaucoup de personnes d'un certain âge, quand même.
Mmh. Ok. Du coup, juste pour finir sur la composition du gouvernement actuel, si vous étiez élu député de la Creuse, quelle serait votre position en tant que député face à la politique que pourrait mener ce gouvernement? Une position d'opposition ou une position plus pragmatique de vote en fonction des projets de loi présentés?
Mais on n'a pas le choix de marcher ensemble. On doit faire les choses pour que la société fonctionne et qu'on ait moins de poison, entre guillemets, dans tous les sujets. C'est pas... Faut pas voir ça en tant qu'opposition, mais plutôt convaincre qu'ils ont pris le mauvais chemin.
Donc plus dans le dialogue que dans l'opposition systématique, comme on peut le voir dans certains débats de l'Assemblée.
Il me semble qu'on est tous sur le même bateau. On n'a pas le choix que de travailler ensemble.
Très bien. On va aborder maintenant trois thèmes qui concernent plus spécifiquement, enfin pas que, les Creusois et le territoire creusois. Mmh. On va commencer par le premier sujet épineux en Creuse, c'est les services publics en général, notamment leur disparition ou leur recul progressif. Est-ce que vous pensez qu'un député aujourd'hui, ou les députés, ont un rôle à jouer pour le maintien des services publics? Quelle est votre position là-dessus?
Ouf, là je sais pas trop quoi dire à ce sujet. En fait, c'est global, c'est encore une fois c'est tout le monde qui doit travailler sur le service public. On doit pas, si on travaille dans une administration, on doit faire en sorte que le service public fonctionne et pas voler. Je pense aux certaines personnes qui se permettent de faire embaucher des membres de leur famille. Et ce sont des emplois fictifs. Ça fait partie des choses à évincer. On peut pas continuer à faire ça.
Et justement, est-ce qu'un député peut avoir un poids sur justement ce genre de comportement abusif, quel qu'il soit d'ailleurs, emploi fictif, licenciement, on y reviendra. Est-ce que vous pensez que un député peut aujourd'hui solutionner des problèmes concrets chez les gens?
C'est lié, c'est-à-dire que c'est eux qui font les lois, mais il y a la population qui aussi non seulement a son mot à dire, mais qui doit aussi agir de façon correcte.
C'est-à-dire de façon correcte?
Ne pas voler.
Ok.
Si un employé d'une administration vole des stylos, du papier ou se permet pendant son temps de travail d'appeler sa famille ou autre, au lieu de travailler, ça va pas.
Ok, on est d'accord. Parce qu'il y a preuve du contraire. Le deuxième sujet d'inquiétude et aussi qui est vraiment important en Creuse, c'est l'environnement. On a assisté depuis plusieurs mois à un certain nombre de projets. On a vu des projets apparaître de mine d'or à Lussa, par exemple. Un projet de géothermie vers Chambon-sur-Voueize. Un projet de barrière d'éolienne sur l'agglomération de Guéret. Autant de projets différents, voire tout à fait différents, totalement différents, mais qui ont quand même un impact à un moment sur la population et surtout sur les populations. Donc vous qui êtes candidate à l'Alliance écologiste indépendante, c'est des sujets qui doivent vous tenir à cœur. Même question que sur les services publics, quels sont les moyens d'action d'un député sur les thèmes de préservation de l'environnement et quels seraient vos projets de loi ou les mesures que vous proposeriez ?
Concernant l'enfouissement des déchets miniers, c'est extrêmement toxique, donc forcément il faut faire des analyses, il faut se renseigner, réfléchir, s'informer, faut pas mettre ça n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Après, il y a beaucoup d'alternatives à l'électricité, l'éolien, le photovoltaïque. On peut créer des champs avec... Enfin, pas créer, mais...
Générer de l'électricité autrement.
Construire, voilà. Construire des champs avec des cellules photovoltaïques. Ça peut fournir l'électricité à tout un hameau.
Pourtant, on se dit les éoliennes, c'est quand même vachement mieux que le nucléaire en termes d'impact. Or, tout le monde a l'air contre.
Eh bien, je me demande pourquoi. Ils disent que ça défigure le paysage, mais ça défigure moins le paysage que les gros pylônes de ligne de THT. Enfin, cet argument n'a pas de sens. Donc, je sais pas, c'est comme si c'était une alternative et que c'était nouveau pour eux et qu'ils ont peur du nouveau. Ils savent pas ce que c'est, donc c'est une réaction un peu...
Donc on s'oppose.
Oui, c'est une... quand on ne sait pas, on s'oppose. Ça, c'est un peu humain, entre guillemets. Quand on est dans l'inconnu, on panique, on a peur, on devient agressif.
Ok. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a déjà quand même tout un tas de lois sur la préservation de l'environnement, le littoral, les forêts, les parcs naturels, etc. Est-ce que selon vous, il faut renforcer ces lois, c'est-à-dire en rajouter, ou mieux la faire appliquer ?
Mieux la faire appliquer. S'il y a trop de lois, c'est comme dans tout. Trop de lois tue la loi, enfin, on est perdu, quoi.
Ouais, ok. dernier thème, forcément, l'économie, avec ce qui a pu se passer ces dernières semaines, et même ces derniers mois et ces dernières années, à l'entreprise GMS, avec des patrons un petit peu malhonnêtes, on va dire, des comportements un petit peu en dépit du bon sens. Qu'est-ce que ça vous inspire, la situation locale de GMS ? Et qu'est-ce que ça vous inspirerait en tant que député pour justement empêcher que ça puisse se produire ? Parce que ce qui se passe à la souterraine, ça se passe partout, quasiment partout en France. Donc voilà, à titre local, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et à titre, en tant que futur député de la Creuse, qu'est-ce que vous ferez ?
GMS, c'est pas unique. Enfin, il y a des gens honnêtes partout et des gens malhonnêtes partout. Ça aurait été finalement du miracle si en Creuse, il n'y avait pas eu des choses négatives. Mais il y a eu un patron... je ne sais pas s'il a été malhonnête, mais bon...
La justice le dira.
Voilà. Mais il y a probablement eu de la mauvaise gestion. Après, j'ai cru comprendre aussi que Peugeot ne s'engageait pas à acheter les pièces automobiles que fabrique GMS. Soit ils n'ont pas de raison, soit ils ont des raisons valables. peut y avoir plusieurs cas de figure. Après, le fait que la CGT aussi, enfin les syndicats, soient assez forts dans le... chez GMS, peut-être que ça peut perturber des repreneurs. En fait, les employés et les patrons, c'est comme partout, on est tous dans le même bateau, on doit tous aller dans le même sens. S'il y a des conflits, il ne faut pas forcément aller s'affronter direct. Il faut, faut parler et trouver un terrain d'entente.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une issue moins malheureuse que ce qu'on pourrait prévoir pour les salariés de GMS et les gens des autres entreprises qui sont dans ces situations? Est-ce que la loi, encore une fois, peut influencer ce genre de problème?
Ben, la loi peut empêcher de délocaliser ailleurs qu'en France. Après, est-ce qu'une loi peut contraindre des fournisseurs ou d'autres entreprises acheteuses c'est délicat, enfin je... Je veux dire honnêtement que je sèche à ce sujet. Je sais pas trop quoi dire.
Ok, très bien. Du coup, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on conclue cette interview?
Alors, pour comprendre le projet de l'Alliance écologiste indépendante, il est important de dire que tout est lié. L'écologie, c'est tout un ensemble. C'est pas forcément... juste l'environnement, le mot tel quel. C'est du début à la fin, dans tous les thèmes. Donc c'est forcément la culture, donc la culture, une culture saine sans pesticides. On peut utiliser le bio, la permaculture, faire des petites exploitations. Faire de la jachère, évidemment, et puis mélanger les cultures, faire des multicultures. Après, si on cultive bien, on mange bien. Donc si on mange bien, on est en meilleure santé.
Okay.
On consomme moins de médicaments. Donc c'est important aussi de consommer des plantes pour se soigner. Donc c'est important aussi que les médecines alternatives... dites médecine douce, enfin il y a plein de mots, il y a plein de termes, soit non seulement autorisé, mais soit qu'on puisse avoir accès facilement à d'autres façons de se soigner. Donc si on est en bonne santé, on travaille bien. Si dans l'environnement du travail, il y a moins de substances chimiques, on est finalement en meilleure santé aussi. Jour après jour, tout au long de sa vie.
Ok.
Voilà. Et puis l'économie, c'est pareil. La finance, c'est pareil. Là, le monde, il est mené par la finance. Il y a des énormes lobbies au niveau aussi agroalimentaire et pharmaceutique. Tout ça, c'est malsain.
D'accord. Très bien. Merci.
Merci à vous.
Mon nom est Véronique Dubovalade. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à la vie des citoyens. Je suis née dans une famille où on a toujours participé à la vie sociale, locale, d'où mon intérêt pour la politique. Donc j'ai été élue à Brive-la-Gaillarde, adjoint au maire en 1996. J'étais en charge des affaires économiques, du tourisme et de la communication et de toutes les techniques de communication. J'ai été maire d'une commune d'à peu près 800 âmes, avec tout ce qui découle de ce mandat de maire qui était important. J'ai siégé dans de nombreuses commissions départementales. J'étais vice-présidente de ma communauté de communes en matière de développement durable et d'environnement. Voilà mon parcours politique au sens citoyen du terme. À côté de ça, j'ai eu des étiquettes politiques. Je suis née gaulliste, en fait, je suis née dans une famille de gaullistes, mais le vrai gaulliste, le gaulliste social. J'ai été membre du RPR, puis de l'UMP. Je n'ai pas été membre des LR parce que quand Jean-Louis Borloo a créé l'UDI, j'ai trouvé que sa position correspondait à mon sentiment à moi, justement une ouverture je vais être peut-être un peu facile à dire, mais le sectarisme en politique, tout le monde le refuse aujourd'hui, moi je le refusais déjà depuis longtemps.
Le Mounier, j'ai 58 ans et j'ai 3 grands-enfants. Je suis aide-soignante de métier où j'exerce à Limoges et je me partage dans la vie entre Limoges et Guéret en Creuse. Voilà. Je figurais sur une liste municipale il y a déjà de très nombreuses années à Limoges, mais je ne suis pas une militante politique à proprement parler.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé à présenter votre candidature ?
Je suis candidate en Creuse d'abord pour que la voix de la Creuse soit entendue dans la nouvelle grande région aquitaine et pour des raisons non pas politiciennes, mais parce que je considère que aujourd'hui l'offre politique, même s'il y a 14 candidats aux élections législatives, est un petit peu réductrice avec les candidats des partis officiels et qu'une offre politique de quelqu'un hors parti peut-être intéressante dans un territoire rural comme celui de la Creuse.
Donc on va parler un petit peu politique, on va poursuivre, mais plutôt au niveau national, notamment sur le sujet du changement d'architecture un petit peu traditionnel du paysage politique, où on l'a vu depuis les présidentielles. Il y a un changement d'articulation dans le paysage politique. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors moi personnellement, qui ne représente pas un parti politique, j'ai tendance à considérer que les partis politiques sont utiles, mais qu'aujourd'hui ils sont obsolètes. C'est-à-dire que leur mode de fonctionnement, leur désignation de candidat est complètement obsolète et que je pense qu'aujourd'hui les Français veulent autre chose. Donc l'offre politique nouvelle à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, est intéressante. Après, je ne considère pas pour autant que la démarche du mouvement La République En Marche d'Emmanuel Macron soit forcément l'alpha et l'oméga demain de la vie politique. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que le but de La République En Marche, c'est un grand parti hégémonique, au centre, droit ou gauche de l'échiquier politique, mais que du coup, la seule alternative à ce grand mouvement qui semble vouloir se créer, c'est ou l'extrême gauche ou l'extrême droite. Dans ce sens-là, ça me fait un petit peu peur. Alors, la chose positive, je vois qu'effectivement, ça va obliger les partis politiques traditionnels à modifier leur mode de fonctionnement, et là, ça va dans le bon sens. Par contre, cette création d'un grand fourre-tout de centre-droite-gauche, par contre, me fait un peu plus peur.
Qu'est-ce que vous pensez de cette composition de gouvernement ?
Alors, je pense que tous les partis politiques ne sont pas représentés, mais que de toute façon, les personnalités qui y sont, ils sont plus à titre personnel qu'en tant que représentants d'un parti politique. Donc moi, le débauchage individuel est quelque chose qui me pose un peu problème, parce que je pense que c'est pas forcément pour de bonnes raisons qu'un nombre de personnes ont rejoint le gouvernement. Après, un gouvernement d'ouverture, avec des gens qui viennent d'horizons très différents, à la fois politiques et de société civile, mais qui décident de travailler ensemble, sur le principe, ça me va bien. Je regrette peut-être que ça se fasse avant les législatives, et non pas au lendemain des législatives, en tenant compte des équilibres qui sortiront des élections législatives, c'est-à-dire majorité absolue pour La République En Marche, ou majorité relative avec l'obligation de travailler avec les uns et les autres.
Dans l'optique d'une majorité relative, et si vous étiez élu député de la Creuse, quelle serait votre position en tant que député par rapport à ce gouvernement ?
En tant que député de la Creuse, je ferai en sorte que les dossiers de la Creuse avancent et que la ruralité soit prise en compte. C'est pas aujourd'hui tellement le cas dans le gouvernement actuel. Mais par contre, d'un point de vue politique, moi je serai pour des majorités d'idées et de textes. C'est-à-dire un texte est bon, je le vote. Un texte n'est pas bon, je le vote pas, ou en tout cas, j'essaye de l'amender. Ça serait pas une opposition systématique, ça serait pas une opposition stérile. Un texte est bon, on le vote, un texte n'est pas bon, on le vote pas.
Vous venez d'écouter En promenade dans la campagne, une émission dans la série Les entretiens du questionnaire, campagne législative 2017 en Creuse.
Il faut, avec ses voisins, ses amis, ne pas hésiter à se mobiliser, à s'unir pour faire en sorte que lorsqu'il y a quelque chose qui vous paraît injuste, inéquitable, ben, lutter contre pour le rendre plus juste, plus équitable, et puis partager avec autrui. Ben, je suis fondamentalement, bien à vivre avec les autres. Il faut être bien, bien quand on vit avec les autres, et c'est vivre avec les autres qui rend bien aussi.
Oyez, oyez, gentes dames et gentilhommes, veuillez entendre la liste des candidats pour les législatives 2017 en Creuse. Michel Vernier, Parti Socialiste. Jean-Jacques Lacarrère, Lutte Ouvrière. Jean-Baptiste Moreau, La République En Marche. Claude Guerrier, Parti Communiste Français. Véronique Dupont-Valade, Divers Droite. Martial Môme, Front National. Michel Mounier, Divers Droite. Damien de Marigny, Debout la France. Jérémy Sotti, Les Républicains, Union et UDI. Pierrette Bidon, Europe Écologie Les Verts. Philippe Gombert, UPR. Laurence Pache, France Insoumise. Cécile Pinault, Alliance Écologique Indépendante. Hervé Guillaumeau, Nouvelle Donne. À vous de faire votre choix.